Et le titre du message ce matin, c'est « Écoute, mon peuple ». Ce psaume a été écrit par Asaph. Ce n'est pas le roi David qui a écrit ce psaume, c'est Asaph. Asaph était un chantre. C'était quelqu'un qui avait la responsabilité de conduire la louange. Et dans ce temps de direction de la louange, comme je le disais au début de ce culte, ce n'est pas chanter par habitude, mais en réalité, c'est répandre notre cœur devant Dieu. Et quand on répand notre cœur devant Dieu, on doit être conscient aussi que Dieu nous parle. Et d'ailleurs, Asaph recevra un message de la part de Dieu pour nous, qui est valable encore aujourd'hui. Et quand je dis pour nous, je parle de l'Église. Vous savez, parfois on est étonné, je lisais ce matin un très connu revivaliste anglais, Charles Wesley, a écrit 6000 chants. Moi, des fois, j'aimerais en écrire un. Et lui, il en a écrit 6000, dont 600 que pour la Sainte-Seine. Comme quoi, le tout, ce n'est pas seulement de chanter, mais de dire « Seigneur, donne-nous, inspire-nous ». Et des chants, je peux vous dire, il y en a certains qu'on connaît, qu'on chante sans savoir qui est l'auteur. Et quand on les chante, on sent qu'il y a un message, il y a quelque chose de particulier qui retentit dans notre cœur. Et Dieu soit loué pour ces chants. Mais je crois qu'il y a encore des chants à écrire, n'est-ce pas, attachés à la sainte doctrine. Mais il y a des paroles que Dieu a données, dont on doit prendre la juste mesure. Le psaume 50 dira ceci. Dieu, l'Éternel, parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui, un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui concluent une alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux annonceront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute, mon peuple, et je parlerai. Israël, et je te témoignerai contre toi. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je t'ai fait des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prends pas un taureau de ta main, ni des boucs de tes bergeries, car tous les animaux de la forêt sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tous ceux qui le remplissent. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? En sacrifice à Dieu, offre la reconnaissance, accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, « Quoi donc? Tu énumères mes prescriptions et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui détestes l'instruction et qui jettes mes paroles derrière toi, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part et avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue tisse la tromperie. Tu t'assieds, tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Tu t'es imaginé que j'étais comme toi, mais je vais te faire des reproches et tout mettre sous tes yeux. Comprenez donc cela. Vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui, en sacrifice, offre la reconnaissance, me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai contempler le salut de Dieu. Amen. Dans ce texte, il est important pour nous de savoir entendre la voix de Dieu. Et ce qui est important, c'est pas seulement de dire « j'ai entendu », mais que cette voix, que cette parole s'inscrive au plus profond de notre cœur pour qu'on puisse méditer, réfléchir et en même temps se dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie ? Entendre et prendre au sérieux ce que Dieu nous dit. Certains demandent à Dieu de leur parler pour après faire comme ils veulent. Je me suis rendu compte de cela et je l'ai fait moi-même pendant des années. Je demandais à Dieu de me dire ce qu'il voulait et après, je faisais ce que je voulais. Est-ce que ça a du sens ? Et après, j'étais étonné que ça ne marche pas. Quelle folie ! La justice de ce monde est sur bien des points défaillante et limitée. La justice a été achetée et vendue. La justice de ce monde se montre parfois subjective et parfois même inégalitaire. Mais la parole de Dieu nous dit qu'encore, il ne faut pas s'y tromper, il y a un temps bien déterminé, un juge devant qui tous les hommes devront paraître et devant laquelle la vérité et la droiture seront rétablies. Entendre la voix de Dieu est un privilège et cela implique une grande responsabilité pour chacun de nous. Je disais tout à l'heure qu'il y a ce message s'adresse à l'Église. Pourquoi ? On pourrait être étonné, on pourrait se dire, mais comment est-il possible ? Il y a parfois des propos qui peuvent sembler durs. Mais n'oublions pas que c'est le temps où Dieu va commencer quelque chose. 1 Pierre chapitre 4, versets 17 à 19. Si nous croyons dans le fait que Dieu va mettre justice, que Dieu va faire justice, que Dieu va exercer le droit véritable, n'oublions pas ce que sa parole dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur ? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Le jugement de Dieu commence par sa maison. En lisant ce texte, je me suis rendu compte qu'il y a deux messages dans ce psaume 50. Le premier, qui est celui qui est son peuple. Au verset 7, nous avons lu ce texte qui dit « Écoute mon peuple ». Écoute mon peuple. Et il est question d'offrir à Dieu la reconnaissance. Il est question de tenir parole envers les engagements que nous avons pris envers Dieu. Et parce que nous agissons de cette manière-là, il dit la parole de Dieu, verset 15, « Invoquez-moi au jour de la détresse et je vous délivrerai et vous me glorifierez. » Mais il y a d'abord cet acte d'obéissance, cet acte où nous reconnaissons que Dieu est notre Dieu. Ce n'est pas une religion. Ce que Dieu mettra en évidence, c'est que ce n'est pas les sacrifices qui ont manqué. Le peuple a fait des sacrifices par milliers. Combien d'animaux ont été sacrifiés par le peuple d'Israël et pourtant il demeurait un peuple qui vivait dans le péché. Est-ce que pour autant, est-ce que Dieu les accompagnait dans tout ce qu'ils faisaient ? Non, parce que ce n'était pas celui-ci le sacrifice que Dieu attendait de leur part. Et pour nous aujourd'hui qui avons, par la grâce de Dieu, obtenu miséricorde auprès de Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ, certes, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de venir avec des animaux à sacrifier, mais nous ne devons pas, nous ne devons certainement pas rejeter le sacrifice que Christ a accompli lui-même à la croix pour nous. C'est facile de pécher, de se dire « c'est pas grave, je ramène quelque chose et je vais réparer ». Non ? Certes, c'était une responsabilité, ça avait un prix. Mais ça rendait les choses trop faciles pour les êtres humains. Et nous, parfois, on use de la grâce de Dieu en disant « mais même si je pêche, ce n'est pas grave. Je demande pardon et c'est recommencé. » Mais la grâce, elle n'est pas ça. La grâce, elle n'est pas pour ça. Et le sacrifice de Christ n'a pas été accompli pour cela. Mais la parole de Dieu nous dit que le jugement de Dieu commence par sa maison. Ça veut dire que dans ses jugements, Dieu veut être juste et que l'exemple doit être justement son peuple. Si nous, en tant que peuple de Dieu, nous ne sommes pas exemplaires dans la manière où Dieu s'attend que nous, on fonctionne, comment le monde pourra être, lui, jugé d'une manière équitable? Et Dieu ne fait pas de complaisance. Excusez-moi, mais il n'y a pas de pot de vin. On a beau dire à Dieu, mais tu sais, Seigneur, si un jour je gagne au loto, je te donnerai 10%. Dans l'idée d'acheter, mais en y gagnant quand même un peu, hein, 90% quand même. Hein? Allez, si tu insistes, 15, Seigneur. Et vous savez, Dieu n'est pas un vendeur de tapis, et avec Dieu, il n'y a pas de marchandage. Parce que le Seigneur ne veut pas, ce n'est pas l'argent qu'il cherche, c'est votre cœur. L'argent est quelque chose qui est appelé à disparaître. Non? Ça vous est arrivé de perdre des sous? Est-ce que vous les avez retrouvés? Mais imaginez celui qui les a trouvés à votre place. Quelle joie, quel bonheur! J'ai souvenir d'un jour, alors qu'on était parti en vacances, on était sur les côtes normandes, et à la sortie d'un rond-point, j'ai pris la mauvaise sortie. Et je cherchais de pouvoir m'arrêter, mais je conduisais pour pouvoir faire demi-tour. Et d'un coup, ma fille, elle crie « Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi !» Je dis « Qu'est-ce qui se passe? Elles ne sont pas bien. » Elle descend en vitesse, elle ouvre la porte, elle descend en vitesse de la voiture. J'ai retrouvé un billet de 5 euros. J'ai dit « Tu m'as fait peur. » Je me suis dit « Qu'est-ce qui s'est passé? Et comment t'as vu ce billet de 5 euros alors que la voiture, elle roulait ?» Il y en a qui ont des bons yeux, non? Et moi, je me suis dit, le pauvre qui a perdu ses 5 euros, peut-être, il les cherche encore. Combien il y en a qui ont perdu leur âme? Combien il y en a qui ont perdu la paix? Combien il y en a qui ont perdu véritablement la joie de vivre et qui encore, ils ont du mal à la retrouver? Le seul qui puisse nous rendre ce que nous avons perdu, c'est Jésus-Christ. Et pour cela, il n'est pas question d'une religion, non. Faisons attention. Et il n'est pas question de dire « parce que je suis chrétien, tout va bien pour moi ». Regardez ce texte, Proverbes chapitre 11, verset 1. « La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste à sa faveur ». Proverbes chapitre 20, verset 23. L'Éternel a en horreur deux sortes de poids, et la balance fausse n'est pas une bonne chose. Waouh. Proverbe 16, verset 11. La balance et les plateaux justes sont à l'Éternel, tous les poids du sac sont aussi son œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous connaissez les anciennes balances? On pesait comment? Deux plateaux, n'est-ce pas? Sur l'un, on mettait ce qu'il fallait peser, et sur l'autre, on ajoutait du poids. Et c'était ces poids qui nous permettaient de déterminer le véritable poids. Si on pense pouvoir tricher avec Dieu, croyez-moi, les poids qui sont dans le sac, c'est les siens, ils sont justes. Oui, mais Seigneur, tu sais, j'ai eu tellement de soucis, tu peux comprendre. Mais j'ai fait autre chose. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a du mal à s'excuser? Ça n'existe pas dans le Sud. On va dire que ça existe ailleurs dans le monde. Des personnes qui se justifient de tout et la parole de Dieu nous les indique comme des propres justes. Ils n'ont jamais tort. Jusqu'au jour où la vérité, excusez-moi, leur éclatera au visage. Est-ce que la parole de Dieu nous dit, à nous aussi autant qu'enfants de Dieu, à nous qui nous réclamons de Christ, à nous qui avons pris cet engagement avec Dieu, à nous qui avons décidé de nous baptiser et de marcher avec Dieu, si on ne le fait pas, il y a un problème quelque part. Et tôt ou tard, la réalité du poids de notre vie spirituelle sera vue par Dieu. Certes, ceux qui sont autour peuvent voir notre engagement plus ou moins. Et on peut sembler très engagé, tout en restant très léger. Je m'engage, mais pas trop. Vous savez, on peut engager à beaucoup dire, mais pas assez faire. On appelle ça les inspecteurs des travaux. T'aurais dû, t'aurais pu, il aurait fallu. Il n'y a qu'à. Ah, vous les connaissez, hein? Il y en a aussi chez nous. Seigneur, aide-nous. Alors si le premier message dit au peuple de Dieu, puisqu'il est question, mon peuple, ce que Dieu attend de nous, c'est clair. Tenir nos engagements, avoir un cœur sincère, offrir à Dieu un sacrifice digne de celui qui a payé pour nous, puisque le sacrifice qui nous permet d'être scellés en Dieu, c'est le sang de Jésus-Christ. Non plus le sang du taureau, du bouc ou quoi qu'autre type d'animal. Le sang de Christ. Mais dans ce texte, il y a un deuxième message. Verset 16. Et dit aux méchants. Alors, je me suis posé la question, qui est le méchant? Comment définir le méchant? Parce que nous, on se dit, Seigneur, parmi nous, il n'y a que des gentils. Allô? Je ne vous vois pas dire non. Je ne vous vois pas dire oui. Vous restez neutre. Ça fait un peu suisse. Mais ce n'est pas à nous de déterminer qui est méchant. Par contre, la parole de Dieu nous donne des indicateurs. Et ces indicateurs, ils sont pour que nous analysions notre propre vie, non pas la vie des autres. On est d'accord? Alors, Dieu dit aux méchants, « Quoi donc? Tu énumères mes prescriptions et tu as mon alliance à la bouche, toi qui détestes l'instruction et qui jettes mes paroles derrière toi. » Qu'est-ce que ça veut dire? Tu connais ce que la parole de Dieu dit. Tu t'en sers comme un langage presque commun, pas toi de Canaan, non? Sauf que ne tu t'y conformes pas. Tu ne fais pas ce que la parole de Dieu dit et tu jettes sa parole derrière toi. Dieu a dit ceci, mais c'était pour avant. C'était pour les autres. C'était pour les tout petits. C'est pour les plus grands que moi. C'est pour les plus larges. Moi, je sors du lot. Je suis spécifique, unique. Donc, toutes les règles ne s'adaptent pas à moi. Il y a mes règles. Elles suffisent à elles-mêmes. Peut-être qu'on ne le dit pas comme ça, mais en tous les cas, on le vit de cette manière-là. Et la parole de Dieu nous dit, « Voilà ce que tu as fait, et je me suis tué. Tu t'es imaginé que j'étais comme toi. Mais je vais te faire des reproches et tout mettre sous tes yeux. » Alors, il y a une image qui est arrivée sur mon cœur. Imaginez un certain moment de vous retrouver devant quelqu'un qui étale votre vie. Ce qui est véritablement été pardonné en Christ n'apparaîtra. Ça a été réglé. La Bible dit que ces péchés-là ont été jetés au fond de la mer. On est d'accord. Plus question de les revoir, plus question de les reprendre. Mais ce que nous avons fait et que nous avons peut-être caché sous le tapis, ce que nous avons peut-être occulté, ce que nous n'avons pas considéré comme un péché, mais comme un droit qui était le nôtre, le jour où ils seront mis devant nous, quelle sera la couleur de notre visage? Quelle sera l'expression de notre visage? Hier matin, alors qu'on a été visiter un lycée, à la sortie, on nous a donné un petit formulaire avec les bonhommes de différentes couleurs, vous savez, pour savoir si tout s'est bien passé. Et en regardant ces feuilles, je me suis dit, Seigneur, et le jour qu'on sera devant toi, ce n'est pas nous qui allons remplir la feuille. Et quelle va être la couleur du bonhomme? Quelle va être ma couleur? Quelle va être votre couleur? De quelle couleur voulons-nous être trouvés devant Christ? Plus blanc que la neige? Et vous savez que nous devons faire attention à tout ce qui peut salir notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Je crois même qu'on est loin d'être parfait. Mais la parole de Dieu nous invite à marcher d'une certaine manière. Proverbes chapitre 4, verset 5, il dit « Acquiert la sagesse. Acquiert l'intelligence. Ne sois pas oublieux et ne dévie pas des paroles de ma bouche. » Est-ce qu'on peut le relire ensemble? Peut-être que vous ne l'avez jamais souligné dans votre Bible. Ça peut être le mot d'ordre de cette année pour chacun de nous, hein? Non? Acquiert la sagesse. Acquiert l'intelligence. Ne sois pas oublieux et ne dévie pas des paroles de ma bouche. Alors, quelle est la vision de Dieu et comment nous y conformer? Le psaume 11, versets 5 à 7 dira « L'Éternel sonde le juste et le méchant. Il déteste celui qui aime la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est la coupe qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime les actes justes, l'homme droit contemple sa face. » Un message qui doit nous interpeller encore nous aujourd'hui. On le cite souvent ce texte de quelqu'un qui vient frapper, qui dit « Mais en ton nom nous avons fait des miracles. » Mais moi, je vous dis que nous avons intérêt à être à l'intérieur de la salle des fêtes au moment opportun. D'ailleurs, si vous notez ce texte, ceux qui étaient dehors parce qu'ils n'étaient pas au rendez-vous. Ils sont arrivés en... Et la parabole des vierges, cinq sages, cinq folles. Qu'est-ce qui se passe dans cette parabole? C'est qui celles qui viennent frapper? Les folles. Pourquoi? Elles n'étaient pas prêtes. Il leur manquait quelque chose. Elles sont arrivées en retard, mais la porte était... Elle ne sait pas. Et cette porte, vous savez, c'est Dieu qui l'ouvre et qui la ferme. De la même manière qu'il a été pour l'arche de Noé. Vous vous rappelez, ce n'est pas Noé qui a fermé la porte de l'arche, c'est Dieu qui a fermé la porte. Le jour où Dieu fermera cette porte, croyez-moi, personne d'entre nous pourra la réouvrir, ni pour nous. Et encore moins pour ceux qui sont de l'autre côté, même si nous on les aime. Et croyez-moi, Dieu les aime plus que nous, mais il est un Dieu juste, qui respecte la volonté des hommes. Tu veux être avec Dieu? Tu as le choix. Tu ne veux pas être avec Dieu? Tu as le choix. Il n'y a pas de souci. Sauf que la direction n'est pas la même. Alors, je termine, puisque cette parole a été donnée à un homme qui avait à cœur ce service de louer Dieu, puisque c'était important dans son cœur et que Dieu s'est révélé à lui. Chose que je crois que Dieu veut encore se révéler à chacun de nous. La preuve en est, c'est que quand nous élevons nos voix au Seigneur, quand nous parlons à Dieu, quand nous chantons à Dieu, quand nous prions, Dieu fait retentir sa voix, son amour, son esprit dans notre cœur. Il nous interpelle, qui d'une manière, qui d'une autre. Et qu'est-ce qu'on va faire de tout cela? Et comment nous préparer-nous à cette rencontre puisque le Seigneur est proche? Il l'a dit, non? Il arrive. Il est proche. Alors juste ce dernier verset, le verset 23. Celui qui, en sacrifice, offre la reconnaissance, me glorifie. et celui qui veille sur sa voie, je ferai contempler le salut de Dieu. » Alors la première chose, c'est celui qui, en sacrifice, offre la reconnaissance, me glorifie. On est très rapide à apporter à Dieu nos besoins. On a plus du mal à offrir à Dieu notre reconnaissance. Vous savez, j'ai fait le test à plusieurs reprises et dans plusieurs églises. Faites une réunion de prière où chacun peut apporter ses sujets de prière. Eh bien alors, vous en avez pour des heures. Il n'y a pas de souci. Et il y en a qui peuvent en multiplier. Ils ont plusieurs listes. C'est le livre des prières. Mais demandez de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Parfois, tristement, on tourne tous sur deux, trois phrases. « Ah, merci parce qu'il me donne la vie. » C'est bien. Et puis, « Ah, il nous donne à manger. » OK. Et puis, et après on commence, « Ah, il nous aime. » Il nous fait bien reposer. Et on oublie. On oublie tout ce que Dieu fait pour nous. On met nos besoins avant notre reconnaissance pour Dieu. Le Seigneur revient bientôt. Et croyez-moi, les besoins vont augmenter. Les défis vont être de plus en plus nombreux. Et il ne faudrait pas qu'on tombe dans le piège d'élever nos voix juste pour dire au Seigneur, « Tu vois, Seigneur, il y a ça qui ne fonctionne pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne marche pas, et regarde l'autre comment il fait, et regarde ceci, et regarde cela. Seigneur, le monde n'est pas juste. » Oui, c'est une réalité. Mais est-ce que toi, tu es en train d'agir justement envers Dieu? Puisque Dieu te dit, « Offre-moi, quoi ? La reconnaissance. » On a lu tout à l'heure que Dieu prend soin de ceux qui se confient en lui, n'est-ce pas? Et le texte nous dit, en Hébreux chapitre 12, versets 28 et 29, c'est pourquoi, puisque nous recevrons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Qu'à chaque fois que nous pouvons nous retrouver, frères et sœurs, que nous puissions offrir à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et crainte. Deux éléments nécessaires pour pouvoir glorifier le nom de l'Éternel. Je termine, puisqu'il est question pour nous de veiller sur sa voie. Celui qui veille sur sa voie, je ferai contempler le salut de Dieu. Le psaume 91, les versets 14 à 16 diront, « Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper, je le protégerai. Puis, puisqu'il connaît mon nom, il invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai contempler mon salut. » Est-ce que Dieu nous dit qu'on n'aura jamais de problème? Est-ce que Dieu nous dit qu'on sera seul dans nos problèmes? Quand tout va bien, tout va bien. Quand tout va bien, on a beaucoup d'amis. Quand tout va bien, ça nous suffit de lever le téléphone et tout le monde répond à l'appel. Mais le jour où on a un problème, excuse-moi, je suis très occupé. Pardon, mais j'ai la ligne qui ne fonctionne plus. Je passe dans un tunnel. Je n'ai pas une bonne connexion. Je te rappelle, à moins que la personne, elle comprend mal votre appel et dit « Non, je ne suis pas intéressé au panneau solaire. » Parce que beaucoup aujourd'hui, ils décrochent « Je ne veux pas de panneau solaire. » Je ne vous appelle pas pour les panneaux solaires. Vous avez vu déjà ça? Cette semaine, j'ai reçu un appel, quelqu'un me dit « C'est pas de la pub !» on vous propose là de refaire votre façade. J'ai dit, message mensonger, au revoir, merci. Non ? Combien d'entre vous aujourd'hui ne répondent plus au téléphone de la maison ? Levez la main. Il y en a qui ne répondent pas tout court. Hein, Marc ? Je ne veux pas te citer, mon frère, mais... Pour Marc, il faut sortir le tapis, les allumettes et faire les signaux de fumée. Et peut-être que... Moi, je bénis Dieu parce que malgré nos faiblesses, nos fragilités, Dieu a pensé à tout. Mais je crois qu'il est temps aussi pour nous de penser à l'essentiel. Peut-être qu'on a lu ce psaume à bien des reprises, mais on n'a pas compris qu'il nous était adressé. Peut-être qu'on est passé trop vite au psaume 51. Il y en a d'autres qui sont pas mal. Ou on s'est arrêté au psaume 23. Il nous plaît celui-là. L'Éternel, je ne manquerai de rien. Amen. Pourquoi les faire si longs, les psaumes ? On peut y aller plus court que ça, non ? On coupe, on retranche, on enlève ce qui nous dérange et on laisse que ce qui nous intéresse. Mais là, le texte nous dit « Puisqu'il s'attache à moi. » Alors moi, je voudrais vous dire ce matin, frères et sœurs, le message de Dieu pour nous, c'est « Attachons-nous à Dieu. » Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Quoi de mieux que d'avoir le Seigneur avec nous lorsqu'on traverse les moments de difficulté. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai contempler mon salut. Ça, c'est le programme de Dieu pour nous. La question, c'est dans quel message nous nous inscrivons, nous ? Si c'est le premier, veillons à que nous ne soyons pas devenus des religieux. Si c'est le deuxième, changeons de chemin. Il y a ce verset, ce texte du roi David qui dira « Sonde de moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Et si je suis sur une mauvaise voie, ramène-moi sur le droit. » Sur là ? Amen. On va incliner nos têtes ? Seigneur, encore ce matin, ta parole nous rappelle que nous sommes pleinement responsables. Ta parole, elle nous met pas un voile devant les yeux pour nous montrer que certains points, peut-être ceux qui nous arrangent le plus, les points positifs. Seigneur, mets ta parole et l'enlève tout ce qui pourrait faire obstacle à une vision claire. Seigneur, tu ne cherches pas des religieux. Ta parole nous dit que tu cherches des adorateurs en esprit et en vérité. Seigneur, tu n'es pas là non plus pour réconforter celui qui vit dans le péché, celui qui agit méchamment, et qui peut-être utilise un langage pseudo-spirituel pour se justifier. Toi, tu connais le cœur. Et encore ce matin, nous voudrions te dire, Seigneur, sonde-nous. Passe-nous au scanner, Seigneur. Et si notre cœur a pris une mauvaise direction, si notre vie a pris une mauvaise direction, ramène-nous sur le droit chemin, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Seigneur, nous voulons pouvoir crier à toi. Nous voulons pouvoir, Seigneur, invoquer ton nom. Nous désirons, Seigneur, pouvoir compter sur ta présence à nos côtés dans les moments de difficulté. Seigneur, nous désirons voir ta délivrance. Nous désirons, Seigneur, être rassasiés des jours, Seigneur, de l'éternité en contemplant non seulement ton salut, mais aussi ta gloire, Seigneur. Alors aide-nous, Seigneur. Et si quelqu'un ce matin, Seigneur, devait sentir dans son cœur qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait. Tu es encore fidèle et bon, Seigneur, non seulement pour le pardonner, mais aussi pour le relever et pour l'encourager, Seigneur, à prendre, Seigneur, la route avec toi. Seigneur, merci parce que ta parole, elle nous parle. Même à distance de milliers d'années, ta parole et le langage et le message demeurent les mêmes, Seigneur, parce que tu nous aimes et parce que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Père éternel, nous te prions au nom précieux de Jésus-Christ et nous te rendrons grâce encore pour ta parole, qu'elle puisse, Seigneur, transformer nos vies. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Avant de terminer par un chant, juste...